un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est comme si vos parents, du jour au lendemain, sans transition ni adaptation, vous avaient mis à la porte, le jour pile de vos 18 ans, avec rien en poche, pas de toit ni de travail, aucun revenu et une seule consigne, démerdez-vous. La veille, ils vous nourrissent, vous prennent plus ou moins en charge avec un cadre et un foyer, et le lendemain, c'est marche ou crève, dehors. C'est à peu près ce qui se passe avec les enfants placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance au moment de leur majorité. Et c'est ainsi qu'un quart des personnes sans abri nées en France sont d'anciens enfants placés auprès de l'ASE, soit plus de 10 000 personnes, signale la Fondation Abbé Pierre en 2019. La loi Taquet, promulguée en février 2022, était censée améliorer ces années délicates entre 18 et 21 ans et adoucir la transition, donc, en décrétant la fin des sorties sèches à la majorité. Mais ces dispositions semblent pour l'instant peu efficientes, comme le constatent deux rapports cités par le Figaro. Heureusement, il reste encore de saintes personnes que cette situation révolte, des gens qui ont du cœur ou un certain sens de la justice sociale, on appellera ça comme on veut. Tout de suite donc, l'histoire de Michael racontée par l'une de ces personnes, au micro d'Anna Benjamin.
Je m'appelle Julien, j'ai 36 ans, je suis sur Angers depuis ma naissance. Avant j'étais dans les chevaux, j'étais accompagnateur de tourisme équestre en Vendée, au bord de la mer, là-bas je suis resté un an. Donc fin 2022, je reviens sur Angers, j'étais sans boulot, et c'est ma sœur en fait qui est éducatrice, qui m'a conseillé de passer par une boîte d'intérim qui est mandaté par le département dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc j'ai un entretien d'embauche 15 jours après. On me propose ma première mission dans un foyer pour autistes. Je suis surpris qu'on m'embauche tout de suite dans des endroits où les publics sont particuliers, avec des jeunes avec des troubles vraiment sévères, quoi. Donc mon rôle, c'est de surveiller la nuit qu'il se passe rien de grave. J'avais jamais travaillé dans le social avant, mis à part dans l'encadrement de jeunes ou d'adultes dans le cadre de balades à cheval, mais pas du tout dans ce milieu-là, quoi. Alors ce travail de veilleur de nuit, il dure à peu près 2 mois. Très vite, il me propose de passer en journée avec des jeunes qui sont placés dans les hôtels par la protection de l'enfance, par manque de moyens de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont passé pas mal de temps dans les foyers, dans les familles d'accueil, et pour au final arriver dans des hôtels privés, à des tarifs très peu élevés. Ce travail me plaît tout de suite parce que il y a un contact particulier avec ces jeunes qui sont complètement perdus, qui sont en recherche de liens. Donc moi, je prenais ma mission à cœur, c'est-à-dire que j'essayais de jouer un rôle éducatif. Mais très vite, on m'a expliqué que mon rôle, c'était simplement de surveiller, pas pour créer du lien, ni pour faire en sorte que le jeune évolue, quoi. Donc il n'y a rien de prévu, c'est à nous de nous arranger pour occuper les journées. Donc ça commençait déjà par les repas. Je me souviens qu'à certains moments, on n'avait pas de chèque service ni de ticket pour aller manger ou faire des courses. Donc nous, on devait avancer les frais, qui s'élevaient parfois à plus de 1000 euros par mois de frais d'avance. On achetait aux jeunes tout ce qui était nécessaire. Ça pouvait être un coupongle, ça pouvait être un téléphone, ça pouvait être à manger. Voilà, c'était des jeunes qui étaient en demande de ce qu'on allait faire, assez inquiets. Plus tard, j'ai compris que les seules activités qui allaient être mises en place, ça va être des choses payantes, comme des parcs d'attractions, des cinémas, rien d'éducatif, quoi. On n'avait pas de locaux, on avait peu de soutien de la part de l'ASE. La première fois que j'ai rencontré Michael, c'était en juin 2023. C'était une rencontre particulière. Il venait de s'être fait défoncer par la police parce qu'il avait commis un vol. Il avait volé un sac de course. De quoi manger, de quoi survenir à ses besoins. Je me dis, waouh, c'est encore du lourd. On voit bien que c'est un gamin qui est laissé à lui-même, quoi. Je me dis, waouh, il y a du boulot. Mais je me dis, en même temps, c'est intéressant. Moi, c'est les profils qui m'intéressent, parce que on part de loin, mais je sais aussi à quel point on peut aller loin, aussi. À partir du moment où on a envie de les aider. Donc, Mickaël, à ce moment-là, il a 17 ans. Il a encore sa place à l'ASE. Il a fait 17 lieux d'accueil, en foyer ou famille d'accueil.
Je m'appelle Mickaël Char, j'ai 18 ans, j'ai grandi à Cholet. Puis j'ai été passé à l'âge de 2 ans et demi en foyer. J'ai aussi été dans des familles d'accueil. La première, c'était à l'âge de 5 ans. C'est avec mon petit frère, qui maintenant a 16 ans, qui lui a été placé à l'âge de 9 mois. J'ai pas vu depuis longtemps. Mon père, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis ma mère, bah... Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu aussi. Mon père, j'ai pas envie de le voir, parce qu'il était trop violent avec ma mère. C'est vraiment un alcoolique et un drogué, donc... Ça me donne pas envie de le voir. Lui, son argent, dès le début du mois, il passe dans le shit et l'alcool. Donc, bah... Dès le début du mois, il oublie de faire la manche. Je perds le daron. J'ai quitté l'école normale en CE2 pour aller en ITEP. C'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. En gros, c'est une classe spécialisée pour les jeunes qui ont des troubles du comportement. Disons que je m'emporte très vite, parce que faut savoir que je suis impulsif, hyperactif, hyper nerveux. Quand on me chauffe un peu trop, bah je m'emballe. Puis après, ça monte. Et du coup, bah dans tous les foyers que j'ai fait, bah à chaque fois qu'on me disait de faire un truc que je ne voulais pas faire ou qu'il y a un jeune qui me cherchait et tout, bah je pétais un câble. J'ai enchaîné bêtise sur bêtise, fugue, violence, vol. Donc bah je me suis viré tout seul de l'ITEP. J'étais au Sésame. Le Sésame, c'est un hôpital psychiatrique pour les adolescents qui sont bientôt adultes.
Alors Mickaël était 2 mois à l'hôpital psychiatrique, plusieurs fois en chambre de contention. Dans ce secteur pour adultes, ils appellent ça des chambres d'isolement, mais en fait ils sont contentionnés, souvent attachés, avec des traitements très très lourds où au fil des mois, les muscles de leur corps se relâchent, il y a les mâchoires qui tombent, c'est choquant et c'est traumatisant pour eux en plus. Donc c'est vraiment pas les aider quoi. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont passé pas mal de temps dans les foyers, dans les familles d'accueil, pour au final arriver dans des hôtels. On attend qu'ils aient 18 ans, et puis on les dégage comme ça à la rue, à leur majorité, quoi, ouais. Alors Mickaël, quand on travaille avec lui, quand il est à l'hôtel, on voit bien quelqu'un de perdu, qui a pas confiance en l'humain, qui cherche la relation, mais qui sait pas comment faire. Mickaël, c'est quelqu'un qui a pas de filtre. Il peut interpeller un groupe qui est en train de discuter. Donc ça peut être des personnes dangereuses. Il a aussi des troubles psychologiques, un retard mental, avec pas mal de tocs, avec pas mal de peurs irraisonnées, de se faire agresser à n'importe quel moment, du jour, de la nuit. Il peut pas vivre seul, il peut pas s'occuper de lui-même, ne serait-ce que de se faire à manger, de se laver, de... Il vit à sa manière, il se réveille un peu quand il veut, il se couche quand il veut, il décide un peu du programme aussi de la journée. Alors le but c'était quand même de le recadrer par rapport à ça, mais c'était compliqué. Donc ma mission c'était comme avec les autres jeunes, de les accompagner dans ces journées sans rien de prévu, vraiment. Donc il fait un petit séjour à l'hôtel de Cholet, où là il est très vite viré. L'ASE disait au gérant qu'il allait être surveillé 24 heures sur 24, mais nous, on, en tant qu'intérimaire, on arrivait donc le matin à 10 heures et on partait généralement à 19 heures. Et après, il faisait ce qu'il voulait, soit dehors, dans la rue, ou dans l'hôtel. Et dans ce cas-là, c'était le personnel de l'hôtel qui devait s'occuper des incidents qu'il pouvait y avoir. Ou du... Donc il arrive sur Angers, dans un hôtel première classe. Il fait 2 semaines ou 3 semaines là-bas. Et pareil, il est viré. Donc il va dans un autre hôtel, en centre-ville cette fois. Il reste pareil, 2-3 semaines. Il en fait un autre à Angers, toujours. Alors Mickaël se fait virer des hôtels parce que son comportement n'est pas adapté. Comme par exemple, le soir, il va regarder la télé dans sa chambre. Mais il peut avoir envie aussi d'aller rencontrer du monde. Donc il va aller frapper par exemple aux portes des autres chambres. Mickaël peut chanter la nuit, peut parler très fort. Et ça peut ne pas plaire, ce qui est compréhensible. Je me souviens d'une fois, il avait démonté involontairement un radiateur en montant dessus. Parce qu'il avait décidé d'aller pisser par la fenêtre ce jour-là, puisqu'il était au rez-de-chaussée. Et voilà, c'était pour lui plus simple que d'ouvrir la porte et d'aller aux toilettes. Mickaël dormait à la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Alors, je me souviens qu'une fois, il y avait un migrant que Mickaël ne connaissait pas, qui avait atterri dans sa chambre. Il avait dormi par terre, sur les affaires de Mickaël. Donc ça, l'hôtel a cru que Mickaël faisait venir dormir des gens. Donc les gérants font appel à la ZEU pour le dégager. J'ai des souvenirs de départ d'hôtel avec Mickaël qui se passait mal. Comment un jeune comme ça peut comprendre qu'il n'est pas adapté à la société, en fait. C'est injuste. Donc il le prenait mal, ça devenait violent. C'était dur. Nous, en tant qu'intérimaire, on était seuls. Mickaël peut pas être un client d'hôtel normal. Il n'a pas les capacités intellectuelles. Même si on lui explique les choses, il peut comprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Faut être patient. Mais non, Mickaël n'a pas sa place dans un hôtel, c'est évident. Alors le 4 juillet, du coup, Mickaël devient majeur. À ce moment-là, il est toujours à l'hôtel en centre-ville. Là, la ZEU décide de faire un contrat jeune majeur très court à Mickaël, de 2 mois, donc jusqu'à septembre. Donc ces contrats permettent aux jeunes d'être encore sous la protection de l'enfance, jusqu'à la rupture du contrat. C'est un engagement du jeune à s'insérer dans la société, donc à chercher du travail, à faire des démarches pour avoir un logement. Donc forcément, les engagements qui doivent être respectés par Mickaël ne le sont pas, puisque les lieux ne sont pas adaptés. Alors le 9 août, moi j'étais en poste avec lui ce jour-là. On avait passé une bonne journée. Au niveau éducatif, c'était pas mal du tout. Je me souviens avoir envoyé des petits messages aux collègues pour leur raconter un rendez-vous à la banque qu'on avait pris pour une ouverture de compte. Où là, Mickaël était à l'heure, il était respectueux, il était propre. Et un autre rendez-vous chez le kiné. Pareil, à l'heure, propre, avec un bon comportement. Et vers 15h, on reçoit un message d'une responsable de la ZEU qui nous donne rendez-vous à la cité administrative, dans les locaux de la ZEU. Ils ont commencé par lui reprocher que son comportement n'était pas adapté aux hôtels. Et donc, la responsable annonce à Mickaël que à la fin du rendez-vous, il serait à la rue. Donc que son contrat jeune majeur est rompu. À partir de ce soir-là, il se débrouille pour vivre, manger, dormir. On lui annonce simplement qu'il peut, avec un avocat, faire un recours. Mais voilà, dire ça à un jeune comme Mickaël, c'est comme parler un chinois. Lui, ce qu'il va retenir, c'est « voilà, je suis à la rue maintenant, et puis qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc il commence à monter en pression. Il devenait un peu agressif. Donc je me suis mis entre Mickaël et un de ses responsables. Et voilà, ils ont continué à discuter tous les deux. Mais Mickaël ne comprenait pas. Alors on sort de cet entretien. sans solution pour la nuit, donc sans un ticket restaurant, sans même une place en lieu d'urgence, rien du tout. Michael est déboussolé, il marche devant moi en sortant. Il parle de se suicider. Il était en larmes. Moi j'étais derrière, je regardais, j'étais dégoûté, j'étais en colère. C'était la première fois que je voyais Michael pleurer, vraiment. Où là je voyais la sensibilité et puis la peur du jeune face à cette décision. Je savais pas ce que j'allais faire dans les minutes qui allaient suivre. Et j'appelle des collègues. Finalement, on dépose Michael devant le commissariat parce que on se disait que c'était le seul endroit où il pouvait être en sécurité. Et on lui explique qu'il allait être à la rue maintenant, que sa vie, que ça allait être une vie de SDF. Donc c'est compliqué de devoir dire ça à un jeune qu'on a suivi. Mais je commence à m'éloigner. Michael est devant le commissariat, il me regarde, je le vois qu'il comprend pas en fait ce qui se passe. Et moi je commence à courir pour vite prendre ma voiture et pour pas qu'il me suive. Je suis en pleurs parce que je me rends compte que ce que je viens de faire, c'est tout le contraire de ce pourquoi j'ai signé mes contrats, quoi. C'est vraiment le pire, je pense, qu'un éducateur puisse vivre. Devoir mettre le jeune à la rue sans option sécurisante. En plus avec des troubles, sachant pertinemment qu'il allait se faire agresser ou mourir d'une overdose parce qu'influençable. Il y a une partie du monde éducatif qui dit qu'il faut pas s'impliquer, qu'il faut rester en retrait, prendre des distances. C'est faisable dans un certain contexte. Là, dans les missions dans lesquelles on était engagé, 5 jours ou 6 jours par semaine, donc ça faisait un sacré nombre d'heures avec ce jeune en individuel, forcément on était baigné dans la vie du jeune imprégné. Et au vu de la gravité et de l'urgence pour ces jeunes-là, ça nous travaillait jour et nuit. Le soir même, je vois un mail au département pour dire que j'arrête de travailler avec eux parce que je refuse de travailler dans des situations comme ça et d'avoir une attitude inhumaine. J'ai pas de réponse du département. Non, tout le monde s'en fout. Le lendemain de cette nuit à la rue, je me souviens, avec l'équipe, on le cherchait parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Puis on avait peur, en fait. On savait très bien comment ça allait se passer, on avait peur. On a appelé plusieurs contacts qu'on avait au niveau du 115, des structures accueillantes pour sans-abri. En fait, on l'a retrouvé à la gare. À la gare, il était en train de se faire agresser par d'autres personnes SDF. Il venait de se faire voler son téléphone. Il a voulu se suicider là, cette fois-là, en sautant par-dessus une barrière près de la gare qui donnait sur les rails. Je me suis dit, plus jamais ça, c'est trop grave. Il aurait pu mourir en fait ce jour-là. C'était quand même moi qui avais accepté de le mettre à la rue ce soir-là. S'il avait été mort, c'était moi le premier concerné et le premier qui aurait ressenti de la culpabilité. Alors le second soir, il va dans une halte d'urgence de nuit. Je convainc Michael que c'est la seule solution qui est sécurisante pour lui. Donc il accepte d'y aller. On visite le lieu avec un surveillant de nuit. On lui montre l'endroit où il va dormir, le dortoir. On lui attribue un lit. Pendant tout ce temps, il est très méfiant. Il s'est fait beaucoup frapper, agresser. Michael a peur maintenant de revivre ce traumatisme, quoi. Finalement, il passera sa nuit dehors sur un banc. Dans l'enceinte de la halte, mais sur un banc, parce qu'il n'a pas envie de dormir avec les autres. Donc les gars de la sécurité de cette halte me disent le matin que ça va pas être possible, parce que son profil n'est pas adapté. En fait, déjà il a dormi dehors, donc on n'a pas de solution, puisque ça c'est une solution du SAMU social, donc c'était le dernier recours en fait. Et moi je voulais pas le laisser à la rue, reprendre ce risque qu'il lui arrive quelque chose. C'est un peu la panique, on sait pas quoi faire, la nuit arrive vite. Donc voilà, officiellement, il n'y a plus rien qui me lie avec Michael. J'ai plus de contrat pour assurer sa protection, quoi. Donc je décide de moi-même, bénévolement, de prendre la suite. À partir de ce moment-là, ouais, j'ai commencé à l'héberger. on récupère avec ma famille, du coup, Michael à la maison. Je fais rentrer donc ma vie professionnelle dans ma vie personnelle. Et c'est pas un choix, c'est la vie qui décide ça. Et moi, j'ai pas eu l'impression de franchir une ligne rouge. Pour moi, le travail d'éducateur ou d'accompagnant, il a pas vraiment de limite dans le sens où c'est la protection du jeune qui est la mission principale. Du coup, je me dis que c'est la protection de l'enfance qui m'a poussé à prendre cette décision, puisque ils m'ont pas donné les moyens d'assurer ma mission, quoi. Tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de date décidée de la durée de son séjour chez moi. Le temps de faire des démarches auprès de services d'urgence, auprès de l'ASE, ça donne pas grand-chose. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain. On cherche toujours des solutions, on remue ciel et terre, d'innombrables services pour essayer de trouver une solution, mais rien de concret se présente. Donc Michael vit avec moi depuis mi-septembre. Alors, ça se passe plutôt bien au niveau de la cohabitation. Il y a clairement, au niveau éducatif, une progression. Après, c'est lourd quand même, parce que c'est pas une solution. C'est pas mon souhait non plus d'être famille d'accueil. Voilà, maintenant, à l'avenir, on attend le recours en référé. En référé, c'est une solution qu'ont les jeunes placés par l'ASE de contredire, en fait, la décision de rupture de contrat jeune majeur. En espérant que ça aboutisse sur une solution pérenne. Et si c'est pas le cas, on lâchera pas. L'avenir de Michael, moi je le vois dans un appart thérapeutique, où là il serait dans un lieu sécurisé, où il pourrait progresser, se faire à manger, avoir du lien social, avoir des activités, avoir un métier adapté même, c'est possible ça. Mais avec des personnes compétentes, en fait, qui l'accompagnent. Et pas simplement des éducateurs qui vont lui gueuler dessus, comme Michael fait fausse route à un moment, ou fait un écart. Ça demande un peu plus de patience, un peu plus de discernement que simplement crier sur le gamin. Michael me fait prendre conscience, en fait, que finalement, les fous, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être pas les jeunes qui sont avec des troubles comme ça, mais plutôt la société qui les gère. Michael, il a besoin d'avoir du lien, de se sentir aimé, d'aimer aussi. Un jeune qui a des troubles comme ça, si on ne lui apporte pas ça un minimum, c'est évident que ça ne va pas bien se passer, quoi. C'est un terrain là où il y a deux chevaux à moi, que j'ai acheté récemment, juste avant de commencer avec la protection d'enfance. Et je viens tous les jours ici. Je viens les nourrir, m'en occuper. Là, Michael, ça lui fait du bien en même temps.
Ouais, j'aime bien. C'est cool. Je m'occupe des ânes, des chevaux. Voilà. Je suis un peu dans mon élément, là. Ils sont beaux. Ils sont doux. Ah, t'en gueule. Oui, mon fils.
On fait les soins aux chevaux, principalement. Pour des jeunes comme Michael, ça leur procure de l'apaisement. C'est un effet immédiat. C'est un peu comme un médicament.
Ouais, j'adore la faire des bisous, des câlins.
Quand le cheval baille comme ça et que... Ça fait du bien aux deux, là, ouais. Ouais. Il est vachement détendu.
Elle est mignonne.
Ouais, elle est mignonne.
Non, pas en plus. T'es avec lui ? Aujourd'hui, j'ai vu chez Julien pour l'instant. Je suis bien chez Julien parce que au moins on fait plein d'activités, donc ça c'est bien. On s'éclate tout le temps avec lui. Julien, moi je vois un peu comme un père. Parce que tout ce qu'il a fait pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient fait ça. Alors moi j'ai besoin d'affection, parce que je suis quelqu'un de très câlin. J'aime m'occuper des animaux, les chiens, les chevaux, les chats. J'adore les chevaux, donc j'ai monté récemment avec Julien, qui me payait des cours d'équitation, puis je suis remonté sur un de ces deux chevaux. En premier temps, j'aimerais faire de l'espace vert. Et quand j'aurai assez de sous, Bah, je prends un billet d'avion, un aller simple pour l'Afrique du Sud. Et bah, j'irai soit dans une réserve en tant que sonneur animalier, un peu comme dans un zoo. Ou alors j'irai dans un refuge pour les animaux qui sont blessés à cause des braconniers, pour les soigner. Parce que là, j'ai un rêve que j'aimerais bien réaliser, c'est pouvoir bah, toucher un lion. Et un autre que j'aimerais bien réaliser aussi, c'est nager avec des dauphins, quoi. En tout cas, si je peux les réaliser, je serais content. Faudra de l'aide et du soutien. Parce que bah c'est compliqué hein, de réaliser ça tout seul. Enfin, mais c'est possible. On croise les doigts puis on dit Inch'Allah, si Dieu le veut.
C'était Michael et son éducateur, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Michael, à Julien et à Maxime Pionneau, l'attaché de production des Pieds sur Terre, ses os et coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Today I felt you send my imagination stray. I hold you responsible for all my ways. I told you you take me into happy days. I know that you.